Bretagne 5, écoutez la Bretagne. À voix haute, une émission de Meredith Ledez.
Bonjour, ce dimanche dans À voix haute, j'ai le plaisir de vous faire partager les premières pages d'un magnifique livre du XXe siècle. Il s'agit de « Sur les falaises de marbre » d'Ernst Jünger, paru en Allemagne en 1939 et traduit en 1942 pour les éditions Gallimard par Henri Thomas. Vous connaissez tous cette intraitable mélancolie qui s'empare de nous au souvenir des temps heureux. Ils se sont enfuis sans retour. Quelque chose de plus impitoyable que l'espace nous tient éloignés d'eux. Et les images de la vie, en ce lointain reflet qu'elle nous laisse, se font plus attirantes encore. Nous pensons à elle comme au corps d'un amour défunt qui repose au creux de la tombe, et désormais nous hante, splendeur plus haute et plus pure, pareille à quelques mirages devant quoi nous frissonnons. Et sans nous lasser dans nos rêves enfiévrés de désir, nous reprenons la quête tâtonnante, explorant de ce passé chaque détail, chaque pli. Et le sentiment nous vient alors que nous n'avons pas eu notre pleine mesure de vie et d'amour. Mais ce que nous laissâmes échapper, nul repentir ne peut nous le rendre. Oh, puissions-nous d'un tel sentiment tirer une leçon dont nous nous souviendrions à chaque instant de notre joie. Plus doux encore est le souvenir des années que nous versa le ciel, si ce fut une soudaine épouvante qui les termina. Nous comprenons alors quel bonheur c'est déjà pour nous autres hommes que de vivre au fil des jours en nos petites sociétés, sous un toit paisible, parmi les bonnes conversations. Saluer d'un bonjour et d'un bonsoir également tendre. Hélas, nous reconnaissons toujours trop tard que la fortune qui nous donnait ces choses nous ouvrait déjà ses trésors. C'est ainsi que, pour ma part, je me souviens des temps où nous vivions au bord de la vaste marina, et la mémoire alors suscite ses enchantements. Pourtant, à cette époque, maint souci, maint déplaisir, me semblait assombrir nos jours, et le grand forestier surtout nous maintenait sur le qui-vive. C'est pourquoi nous vivions avec une certaine sévérité, et vêtus très austèrement, bien qu'aucun vœu ne nous liât. Deux fois par an, cependant, la pourpre en nous se trahissait, au printemps, puis à l'automne. À l'automne, nous buvions comme font les sages et rendions hommage aux vins précieux qui prospèrent sur les pentes méridionales de la vaste marina. Quand, dans les jardins, nous entendions monter entre les feuillages empourprés et les sombres grappes les appels rieurs des vendangeurs, quand, dans les bourgades et les villages, les pressoirs commençaient à geindre et que la fermentation des mars nouveaux tissait autour des domaines ses voiles d'odeur, nous descendions chez les aubergistes, les tonneliers, les vignerons, et choquions avec eux la cruche pansue. Et nous trouvions toujours là de gais compagnons, car ce pays est riche et beau. C'est une terre d'élection pour le loisir heureux, et malice et fantaisie y sont monnaie courante. Nous revenions ainsi, durant maintes et maintes soirées, nous asseoir au joyeux banquet. C'étaient les jours où, porteurs de masques, des gardiens circulent de l'aube à la nuit par les jardins, armés de crécelles et de fusils, et tiennent en échec la convoitise des oiseaux. Ils sont de retour très tard, avec des couronnes de cailles, de griffes tachetées et de becs figues, et bientôt leur butin apparaît sur la table, en des plats garnis de pampres. Nous aimions aussi manger les marrons grillés et les noix fraîchement cueillies que le vin nouveau accompagne, et surtout les champignons superbes que les gens du pays cherchent dans les bois avec des chiens, la truffe blanche, le cèpe délicat et la rouge orange. Tant que le vin était encore doux et couleur de miel, l'entente régnait autour de la table où nos propos paisibles s'échangeaient et souvent le bras s'appuyait sur l'épaule du voisin. Mais dès qu'il commençait à travailler et à rejeter ces éléments terrestres, les esprits vitaux s'éveillaient en nous fougueusement. C'était alors de brillants duels où décidait l'arme du rire et dans lesquels s'affrontaient des joueurs qui maniaient la pensée avec cette insigne légèreté, cette liberté que seule peut donner une longue existence de loisir. Mais plus encore que ces heures qui s'enfuyaient étincelantes de fantaisie, nous chérissions le silencieux retour à travers champs et jardins dans la profondeur de l'ivresse, tandis que déjà la rosée du matin tombait sur les feuillages fauves. Quand, sortant de la petite ville, nous avions passé la porte du Coq, nous voyions sur notre droite la rive du lac baignée de lueurs, et sur notre gauche s'élevaient dans la clarté de la lune les falaises de marbre aux parois brillantes. Entre rives et falaises s'étendaient les coteaux à vignobles, et le sentier le long de leurs pentes allait se perdant. À ces chemins se lie le souvenir d'un éveil rayonnant, fait d'étonnement, et qui tout à la fois nous emplit de crainte et nous ravit. Ce fut comme si, des profondeurs de la vie, nous étions remontés à sa surface. Pareil au coup frappé au carreau qui nous tire du sommeil, une image était tombée dans la nuit de notre ivresse. Peut-être la corne de bouc qu'en ces contrées le paysan plante au bout d'une longue rame dans le sol de son jardin. Peut-être le grand-duc aux yeux jaunes perché sur le faîte d'une grange ou quelques météores filant dans un crépitement à la voûte du ciel. Toujours est-il que nous demeurâmes comme pétrifiés et un brusque frisson nous pénétra jusqu'aux moelles. Il nous sembla alors que pour contempler les paysages, un nouveau sens nous était donné. Nous regardions comme avec des yeux auxquels il est accordé de voir l'or et les cristaux qui courent en veines brillantes dans la profondeur des terres vitreuses. Et pâles, semblables à des ombres, voici que s'approchèrent de nous les antiques génies de la contrée, dont ce fut ici la patrie bien avant que sonnent les cloches aux églises des couvents, bien avant qu'une charrue ait entamé la glèbe. Et ils s'approchaient de nous, hésitant, avec de frustes visages aux dures lignes, dont l'expression mêlait dans un insondable accord la terreur avec la joie. Et nous les regardions, d'un cœur tout ensemble effrayé et profondément ému. Et il nous sembla par instants qu'ils voulaient parler, mais bientôt ils s'évanouirent tels une fumée. Alors, en silence, nous reprîmes le chemin de notre proche ermitage. Quand la lampe fut allumée dans la bibliothèque, nous nous regardâmes et je vis tout ce qui rayonnait de sublime dans les yeux de frère Othon. Je connus dans ce miroir que la rencontre n'avait point été illusion. Sans échanger un mot, nous nous serrâmes la main et je montai à l'herbier. Et par la suite, il ne fut jamais question entre nous de ces choses. Là-haut, je restai longtemps encore assis à la fenêtre ouverte, plein d'une immense allégresse, et mon cœur sentait l'existence entière dérouler du fuseau ses fils d'or. Puis le soleil monta sur Alta Plana, et les terres semées de rayons s'éclairèrent jusqu'aux frontières de Burgondie. Les escarpements perdus, les glaciers, étincelaient blancs et roses, et les hautes rives formaient leur image tremblante dans le glauque miroir de la marina. Sur le pignon aigu, nos familiers, les rouges queues, commencèrent alors leur journée, nourrissant la seconde couvée dont le pépiment affamé faisait songer à de fins couteaux qu'en aiguise. Dans les ceintures de roseaux qui s'étendent autour du lac, des files de canards prenaient leur vol et pinsons, chardonnerets, picotaient par les jardins les derniers grains de raisin. Puis j'entendis s'ouvrir la porte de la bibliothèque et frère Othon descendit dans le jardin pour examiner les lys. Mais le printemps venu, nous prenions notre part des beuveries étranges qui sont d'usage en ces campagnes. Nous nous enveloppions dans des manteaux de fous bariolés faits de lambeaux et chatoyants ainsi qu'un plumage et posions sur notre visage les rigides masques en forme de bec. Puis, bondissant comme en une danse bouffonne, les bras battant comme des ailes, nous descendions dans les bourgs où sur les vieux marchés le grand arbre des fous était dressé. Là se déroulait à la lueur des torches la procession des masques. Les hommes y étaient costumés en oiseaux et les femmes se déguisaient dans les costumes de fête des temps anciens. Elles nous criaient des railleries sur une note élevée, leur voix mimant la musique des horloges, et nous leur répondions en poussant le cri aigu des oiseaux. Déjà dans les cabarets, dans les caves des tonneliers, nous parvenaient comme des appels les marches des corps de métier sous le signe de l'oiseau, minces flûtes à la voix perçante. Et c'étaient les chardonnerets, vibrantes guitares, c'étaient les chahuts en ronflantes contrebasses des coques de bruyère, et ces orgues de barbarie criards dont la corporation de la huppe accompagne ces couplets infâmes. Frère Othon et moi, nous allions rejoindre les piques noires, où l'on rythme la marche sur des cuveaux avec des cuillères à peau, et nous tenions conseil en un tribunal bouffon. Pour boire, il fallait être habile, car on aspirait le vin avec une paille passée par les trous de nos becs. Quand des vapeurs menaçaient notre cerveau, quelques courses dans les jardins et les fossés de l'enceinte nous rendaient la fraîcheur. Nous allions aussi nous mêler aux danses, ou bien, sous la tonnelle d'une auberge, nous ôtions le masque et mangions, en compagnie de quelque amour d'une heure, les escargots à la mode burgonde préparés dans les creux nombreux de l'immense poêle. Partout et jusqu'au point du jour, retentissait durant ces nuits l'appel aigu, le cri d'oiseau, dans les sombres ruelles et sur le bord de la vaste marina, dans les bosquets de châtaigniers, dans les vergers, dans les gondoles parées de lampions qui circulaient sur les sombres eaux du lac et même entre les grands cyprès des cimetières. Et toujours, pareil à son écho, l'on entendait le cri effarouché qui, fugitif, lui répondait. Les femmes de ce pays sont belles et débordantes de cette force généreuse que le vieux Boutefeu appelle la vertu donatrice. Voyez-vous, ce ne sont point les souffrances de cette existence, mais ses emportements et sa libre plénitude dont le souvenir ferait monter les larmes à nos yeux. Mon oreille a gardé fidèle mémoire de ces voix joueuses et surtout de ce cri vite réprimé dont Loretta m'accueillit près du rempart. Bien qu'une robe à panier blanche et bordée d'or dissimulât ses membres et le masque nacré son visage, je l'avais aussitôt reconnue dans l'obscurité de l'allée, à la manière dont à chaque pas elle balançait sa hanche, et je m'étais cachée malignement derrière un arbre. Puis, poussant l'éclat de rire du pic, je lui fis peur et je la poursuivis battant l'air de mes larges manches noires. Sur la hauteur où la pierre des Romains se dresse parmi les vignobles, je la saisis tout épuisée, elle a pressé tremblante entre mes bras, inclinant sur son visage le masque couleur de feu. Elle était là, qui reposait dans mon étreinte rêveuse et la proie d'une puissance magique. Saisie de pitié, j'ôtai de mon front dans un sourire le masque à tête d'oiseau. Alors, elle aussi se mit à sourire et posa doucement la main sur ma bouche, si doucement que pour moi le monde disparut et que je n'entendis plus dans le silence que le souffle à travers ses doigts.
Thank you. liebes Fühllein für deinen Rat. Gern folg ich dem
Mut. À voix haute, Meredith Ledez.
Mais d'ordinaire, en notre ermitage au Buisson Blanc, les journées s'écoulaient dans une profonde retraite. L'ermitage se dressait sur le bord des falaises de marbre, au sommet d'un de ces îlots rocheux qu'on voit çà et là trouant le pays des vignes. Son jardin était aménagé en étroites banquettes prises sur la roche, et le long des bordures de simples pierres qui leur servaient de murs, les plantes sauvages s'étaient fixées, qui prospèrent dans les grasses terres à vignobles. C'est ainsi qu'y fleurissaient au début de l'année les jacinthes aux grappes de perles bleues, et qu'en automne l'arbre de Judée nous réjouissait de ses fruits éclatants, pareils à de rouges lampions. Mais en toute saison, la verdure argentée des buissons de ces plantes qu'on nomme rue cernait la maison et le jardin, d'où le soleil à son zénith faisait monter un parfum confus et tournoyant. À midi, quand la grande chaleur cuisait les grappes, l'ermitage s'emplissait d'une fraîcheur reposante, car non seulement le sol y était couvert d'un carrelage à la manière méridionale, mais maintes chambres s'étendaient jusqu'à l'intérieur du roc. Pourtant, à ce moment du jour, j'aimais aussi m'étendre sur la terrasse, écoutant dans mon demi-sommeil la sèche musique des cigales. De vastes papillons entraient dans le jardin, assaillant les fleurs ouvertes, et sur les falaises, les lézards gris de perles cherchaient la pierre ensoleillée. Enfin, quand flamboyait dans la fournaise le gravier blanc du sentier aux serpents, lentement les vipères fer de lance s'y glissaient et le couvraient bientôt comme une bandelette se couvre d'hiéroglyphes. Ces bêtes, qui vivaient nombreuses dans les crevasses et les fissures de l'ermitage, ne nous inspiraient point de crainte. Nous y prenions bien plutôt plaisir durant le jour, à voir briller leurs couleurs éclatantes, et la nuit, à entendre le léger sifflement subtil et sonore dont elles accompagnaient leurs ébats amoureux. Souvent, notre manteau légèrement relevé, nous les enjambions, et lorsque nous recevions un hôte qu'elles effrayaient, nous les repoussions du pied hors du chemin. Mais jamais, sur le sentier aux serpents, nous ne lâchions la main de nos hôtes. Et souvent, j'ai remarqué que la liberté, la bondissante sécurité qui nous saisissait sur ce chemin, nos hôtes également semblaient l'éprouver. Bien des choses contribuaient à rendre ces bêtes si peu farouches, mais leur manière d'être nous fussent demeurées bien ignorées sans l'empoussa notre vieille cuisinière. Tant que durait l'été, l'empoussa plaçait chaque soir devant l'entrée de sa cuisine creusée dans le rocher un petit bassin d'argent plein de lait, puis, pour attirer les bêtes, elle lançait un appel rauque. Alors, au dernier rayon du couchant, on voyait luire partout dans le jardin un mouvement sinueux et doré, sur la tête toute noire des parterres de lys, sur la verdure argentée des gros buissons, et plus haut, dans le taillis des coudriers et des sureaux. Puis les bêtes se rassemblaient autour du bassin, formant ensemble le signe enflammé de la roue solaire, et prenaient l'offrande qu'on leur apportait. L'empoussa avait l'habitude, pour offrir ce don, de prendre sur son bras le petit hérion qui accompagnait son appel de sa voix frêle. Quelle ne fut pas ma stupeur lorsqu'un soir, alors qu'il marchait à peine, je vis l'enfant traîner hors du seuil le petit bassin. Il en frappa le bord avec une cuillère de bois, et les serpents rouges brillèrent, glissant hors des crevasses du marbre. Et comme si je rêvais tout éveillé, j'entendis rire le petit hérion, debout au milieu d'eux sur l'argile battue du seuil de la cuisine. Les bêtes l'entouraient de leur jeu, se soulevant à demi et balançant par-dessus sa tête en un rapide mouvement de pendule leur lourde tête triangulaire. J'étais debout sur la terrasse, et n'osait appeler mon petit hérion, pareil à l'homme qu'on voit marcher dans son sommeil sur l'escarpement des toits. C'est alors que j'aperçus la vieille, dans sa cuisine dans les roches, l'empoussa qui souriait, les bras croisés, et le sentiment triomphal de la sécurité au foyer même des périls se leva rayonnant dans mon cœur. À dater de ce jour, ce fut Hérion qui nous appela ainsi à la collation du soir. Lorsque nous entendions tinter le bassin d'argent, nous laissions là notre travail pour nous réjouir au spectacle de l'enfant dans son offrande. Frère Othon quittait bien vite sa bibliothèque, moi l'herbier dans la galerie intérieure, et Lampoussa se levait aussi de son foyer pour admirer l'enfant, le regard plein de tendresse et de fierté. Et nous nous amusions des efforts de l'enfant pour maintenir l'ordre parmi les bêtes. Bientôt, Hérion put les appeler chacune par son nom, et ils trottinaient dans leur cercle, traînant sa petite robe de velours bleu ourlé d'or. Il était aussi fort attentif à ce que chacune eût sa part, et faisait place aux traînardes autour du bassin. Puis, de sa cuillère en bois de poirier, il frappait la tête de l'une ou l'autre des buveuses, ou bien, quand elles tardaient à céder la place, il les saisissait à la nuque et de toutes ses forces les tirait de côté. Si rudement qu'il pût les saisir, les bêtes étaient toujours douces et dociles envers lui, même à l'époque de la mue, où elles deviennent si sensibles. C'est un temps où les bergers ne laissent point leurs troupeaux pâturer aux abords des falaises de marbre, car une morsure au bon endroit tue le taureau le plus fort avec la promptitude de l'éclair. Hérion aimait par-dessus tout la plus grande et la plus belle de ces bêtes, que frère Othon et moi nommions la griffonne, et dont les récits des paysans et des vignerons nous laissaient à penser qu'elle vivait dans les crevasses depuis des temps reculés. Le corps des vipères fer de lance est d'un rouge métallique, et souvent des écailles d'un éclat cuivré parsèment sa bigarrure. Mais cette griffonne était toute empreinte d'un pur éclat doré, sans une tache, et qui, près de la tête, tournait aussi au vert, à la façon des joyaux, et jetait une lueur accrue. Elle pouvait, quand elle était courroucée, gonfler son cou tel un bouclier, tel un miroir d'or qui resplendissait dans l'attaque. Elle semblait inspirer aux autres du respect, car aucune d'elles ne touchait au bassin tant que la vipère dorée n'avait point satisfait sa soif. Nous regardions alors Hérion jouer avec elle, tandis qu'à la manière des chats, elle frottait sa tête aiguë contre sa petite robe. Puis, Lampoussa nous apportait la collation du soir, deux coupes de vin médiocre et deux tranches d'un pain sombre et salé. On passait par une porte vitrée de la terrasse à la bibliothèque. Aux belles heures de la matinée, cette porte demeurait grande ouverte, en sorte que frère Othon, assis à sa vaste table, était comme en un coin du jardin. J'entrais toujours avec plaisir dans cette pièce au plafond de laquelle jouaient les ombres vertes des feuillages et dont le silence accueillait les gazouillis des jeunes oiseaux et le proche bourdonnement des abeilles. Devant la fenêtre, un chevalet supportait la grande planche à dessiner et le long des murs, les rangées de livres s'étageaient jusqu'au plafond. La rangée inférieure était prise dans un haut casier aménagé pour les in-folio, le grand Hortus Plantarum Mundi, et ses livres enluminés dont l'art est aujourd'hui perdu. Au-dessus courait un rebord que des panneaux à glissière permettaient d'élargir encore et que des feuillets épars recouvraient parmi des planches d'herbe jaunies. Ces tables de bois noir portaient aussi une collection de plantes fossiles que notre ciseau avait détachées dans les carrières à chaux et dans les mines, et parmi elles aussi divers cristaux, ceux dont on expose la beauté, de ceux aussi que les causeurs pensifs aiment soupeser en leurs mains. Au-dessus s'étageaient les petits volumes, collection d'ouvrages botaniques qui n'étaient pas des plus étendus, mais sans lacune en tout ce qui concernait les lys. Et cette partie de la bibliothèque se divisait encore en trois branches générales, l'une contenant les œuvres qui s'occupaient de la forme, l'autre de la couleur, la troisième du parfum. Les rangées de livres se continuaient dans la petite galerie et le long de l'escalier qui conduisait en haut jusqu'à l'herbier. Là se trouvaient les pères de l'Église, les penseurs, les auteurs classiques anciens et modernes, et surtout une collection de dictionnaires et d'encyclopédies de toute espèce. Le soir, je retrouvais Frère Othon dans la petite galerie où brûlait dans la cheminée un feu de sarment sec. Quand le travail de la journée avait été bon, nous aimions nous détendre alors en ces conversations plus nonchalantes où l'on chemine sur des chemins battus, saluant au passage les dates et les autorités. Nous nous amusions aux bizarreries du savoir, à la citation rare, à celle qui frise l'absurde. Et dans ces jeux, la légion des esclaves muets, garrottés de cuir ou de parchemin, nous servait toujours à propos. Le plus souvent, je ne tardais pas à monter à l'herbier, où je poursuivais mon travail au-delà de minuit. Lors de notre emménagement, nous avions fait courir le sol d'un bon plancher, puis établir de longues rangées de casiers. Dans leurs compartiments s'entassaient par milliers les bottes des plantes de l'herbier. Une part infime seulement en avait été récoltée par nous. Elles venaient pour la plupart de mains depuis longtemps desséchées, elles aussi. Parfois même, alors que je cherchais quelques plantes, je rencontrais des feuillets jaunis par le temps, dont la signature pâlie avait été tracée par le maître Liné lui-même. En ces heures de la nuit et du matin, j'établissais de nombreuses fiches et augmentais la grande nomenclature de la collection, puis celle de la petite flore aussi, où nous relevions soigneusement toutes les trouvailles faites dans le domaine de la marina. Le jour suivant, Frère Othon, s'aidant de tous les livres, examinait les fiches dont il complétait encore et coloriait un grand nombre. Ainsi grandissait un ouvrage dont la seule élaboration déjà nous procurait maintes joies. Lorsque nous sommes satisfaits, les présents de la vie les plus frugaux comblent nos sens. Dès l'enfance, le monde végétal avait été l'objet de mon respect, et durant maintes années de voyage, j'avais épié ces merveilles. Et j'étais familier de cet instant où le cœur cesse de battre, où nous pressentons dans la fleur qui s'ouvre les mystères qu'enferme en elle toute semence. Jamais, cependant, la splendeur des croissances ne m'avait été aussi sensible que sur ce plancher couvert d'un arôme de verdure depuis longtemps fané. Avant de prendre mon repos, je me promenais un instant encore de long en large dans l'étroite allée médiane. Il me semblait souvent, durant ces heures de minuit, n'avoir jamais vu les plantes plus éclatantes et plus magnifiques. Et je goûtais aussi de bien loin le parfum de ces vallées tout étoilées de blancheur, autrefois bu dans le printemps épineux du Hedjaz, et le souffle vanillé qui délasse le voyageur dans la fournaise sans ombre des forêts d'arbres candélabres. Puis se rouvraient comme les pages d'un livre ancien les souvenirs des heures de farouche plénitude, souvenirs des marais étouffants où fleurissait la Victoria Regia et des végétations littorales qu'on aperçoit à midi dévorées de lumière en haut de leurs pâles échasses loin des côtes. Mais je n'éprouvais plus cette frayeur qui nous saisit là où nous nous heurtons toujours à la démesure des poussées végétales, semblables à quelque dieu dont les mille bras nous attirent. Je sentais croître, en même temps que notre science, les forces qui permettent d'affronter les puissances de la vie et de les dominer comme on conduit les chevaux par la bride. Bien souvent, le jour pointait avant que j'eusse gagné les trois lits de camp qui se trouvaient dressés dans l'herbier. C'était « Sur les falaises de marbre », le très beau roman d'Ernst Jünger, paru en 1939 et traduit de l'allemand en 1942 par Henri Thomas pour Gallimard. Cette émission était comme toujours réalisée par Frédéric Guillon. Vous avez pu entendre en interlude musical un extrait de Siegfried de Wagner sous la direction de Karl Böhm, un enregistrement à Bayreuth en 1966. Quant à moi, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à la rentrée pour de nouvelles lectures et pour les deux prochains week-ends, vous aurez la possibilité d'entendre des rediffusions. À bientôt.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.